Chers frères et sœurs en Christ, il est extraordinaire de voir que la parole prêchée par Paul a été accueillie dans la joie, mais que surtout, elle a transformé en profondeur une toute petite communauté chrétienne qui était celle de Thessalonique. Communauté qui, à bien des égards, ressemble beaucoup à celle qu'en ces temps nous connaissons ou rencontrons dans notre pays. Rappelons que ces mots de Paul ont été écrits 2 décennies après la résurrection du Christ. Il s'agit de la première prédication chrétienne énoncée bien avant ce qu'écriront les évangélistes. Paul en déduit que la prédication a porté son fruit. Et cela se voit désormais dans la dynamique de cette petite communauté. Et pourtant, cela n'était ni évident ni facile, puisque Paul précise qu'ils ont accueilli la parole au milieu de bien des épreuves. Paul fait allusion ici à l'hostilité que rencontre la prédication chrétienne. Paul lui-même, Sylvain et Timothée ont essuyé les premiers ce refus de l'Évangile par ceux à qui il était destiné en priorité. Et maintenant, c'est la nouvelle communauté chrétienne de Thessalonique qui relève le flambeau et qui rencontre des problèmes qui là se traduisent non par de l'indifférence, comme nous connaissons cela aujourd'hui, mais par des persécutions. Quoi qu'il en soit, cette petite communauté tient bon. Vous nous avez imités, nous dit Paul, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit-Saint. Rassurons-nous, ou plutôt inquiétons-nous, les épreuves que soulève Paul existent toujours. Certes, 2000 ans après, nous avons une collection complète de temples, d'églises, parfois des cloches, des orgues, des harmoniums, mais au même titre que Paul le fait, nous pouvons en déduire que la foi chrétienne rencontre énormément de problèmes et d'épreuves. Il suffit de voir nos assemblées plus que clairsemées et particulièrement vieillissantes dans nos pays. Dans les faits, notre problème n'est pas si loin de ce que Paul nous disait à travers ses lettres. En plein milieu du 19e siècle, un drôle de chrétien, écrivain inclassable, mais néanmoins intempestif, le philosophe et théologien Kierkegaard, pose dans une actualité évidente d'aujourd'hui la question de comprendre pourquoi notre entourage ne ressent plus du tout le besoin d'accueillir la parole, et donc notre entourage ne ressent en rien le besoin de devenir chrétien. Devenir chrétien n'a plus de sens dans un monde qui a cessé de l'être. Face aux défis actuels de l'humanité, être chrétien ne représente pas un recours en quoi que ce soit. Nous sommes entrés dans un âge de déchristianisation massive, dans la mesure où la plupart de nos contemporains ne semblent plus se comprendre, ni même ne rien comprendre, à l'intérieur de la parole chrétienne. D'ailleurs, plutôt que de parler de post-chrétien, il serait plus juste de dire, comme Charles Péguy l'avait deviné, que nous sommes devenus littéralement un chrétien. Un chrétien, comme nous pouvons dire, incroyant. Peggy ajoutait même que puisque l'inchrétien se situe totalement en dehors du christianisme, il ne peut pas y rentrer et n'en exprime absolument pas l'idée. Voilà l'épreuve dans laquelle nous sommes. Comme le fait Paul en écrivant à ses frères et sœurs de la petite communauté de Thessalonique, nous sommes devant la signification même du christianisme, du fait même de se dire et d'être disciple du Christ. Là est bien notre épreuve. Tout du moins, à l'instar de la réflexion que soulève Paul, nos communautés doivent s'interroger sur le rapport que chacun parmi nous entretient avec l'Évangile de Dieu. En ce sens, nous serions en mesure peut-être de redécouvrir que l'Évangile n'est pas le message fondateur de la tradition religieuse particulière que nous appelons le christianisme. Nous pourrions découvrir que l'Évangile n'est pas le message fondateur de la tradition religieuse particulière qui possède ses croyances, ses rites, ses habitudes, sa morale, sa manière de faire. Comme Paul l'exprime clairement, l'Évangile, c'est d'abord et avant tout une qualité de la parole elle-même quand elle s'adresse à quelqu'un pour lui dire qu'il est possible d'exister autrement dans un monde où l'existence même est devenue un problème. Ce qui veut dire précisément que l'Évangile, en quelque sorte, est l'avenir de l'humain. C'est peut-être parce que nos contemporains n'entendent pas cette bonne nouvelle qui explique les raisons pour lesquelles l'Évangile est et reste encore et toujours inédit, c'est-à-dire non proclamé. C'est aussi la raison pour laquelle il reste inattendu, c'est-à-dire non attendu. Souvenons-nous, dans l'évangile de Luc, la question la plus brutale, la plus dérangeante qui nous est posée. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si le Christ pose la question, il ne la résout pas à notre place. D'ailleurs, cette question, nous pouvons aujourd'hui nous la reposer autrement. Manque-t-il quelque chose d'essentiel à la vie humaine si l'Évangile n'est pas proclamé comme Évangile? Convenons que nous qui sommes là, nous qui en sommes encore à chercher dans les généalogies si telle ou telle famille a des ascendants croyants, des descendants croyants, nous qui n'osons même plus en parler tranquillement avec nos proches et même nos plus proches, nous assistons à un oubli de la foi. À un oubli qui n'est pas tant le fait des incroyants que celui de notre propre conception du christianisme. Nous assistons à un oubli de la foi parce que nous ne savons plus très bien ce qu'elle est, ce qu'est la foi. Nous assistons à un oubli de la foi parce que nous l'avons remplacé par un assentiment plus ou moins convaincu à une doctrine ritualisée ou ce que nous appelons sans conviction la spiritualité ou plus encore paresseusement, ce que nous appelons la recherche de sens. Il y a, à ce propos, il y a longtemps que nous aurions dû réaliser que c'est dans cet abandon, et appauvrissement de la foi que se trouve le glissement de sens le plus étonnant de la longue histoire du christianisme et qui explique en grande partie qu'il peine ou qu'il a énormément de difficultés à être parlant à nos contemporains. L'écrivain Jean-Paul Sartre, dans son livre « Les mots », traduit bien cet oubli de la foi à l'intérieur du monde chrétien. Depuis 2000 ans, dit Sartre, les certitudes chrétiennes avaient eu le temps de faire leurs preuves. Elles appartenaient à tous. On leur demandait de briller dans le regard d'un prêtre ou d'un pasteur, dans le demi-jour d'une église et d'éclairer les âmes. Mais nul n'avait besoin de les reprendre à son compte. C'était le patrimoine commun. La bonne société croyait en Dieu pour ne pas parler de lui. Nous ne parlons plus de Dieu au monde qui nous entoure. Ainsi, si la lettre de Paul reste brûlante d'actualité pour nous, il ne nous écrirait certainement pas ce qu'il dit à la toute petite communauté de Thessalonique. Vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Il ne nous dirait pas cela parce que nous avons tout simplement oublié le fait évident que l'évangile du Christ vivant, n'est joyeux message que dans la foi. Dans la foi seule. Dans la sola fide, pour reprendre ce mot d'ordre que nos pères ont porté dans l'épreuve. Si, quelle que soit la raison ou les circonstances, nous enlevons la foi, alors, il n'y a plus de christianisme. Par contre, réalisons que le contraire n'est absolument pas vrai. Si on enlève le christianisme, la foi au Christ vivant et éternel, cette folie, comme le dit Paul, cette folie reste toujours possible. En accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit, nous dit Paul, vous êtes devenu un modèle pour tous. En effet, non seulement la parole a retenti depuis chez vous, mais c'est aussi surtout que votre foi en Dieu s'est fait connaître de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Comprenons bien que si nous enlevons la foi, si nous enlevons l'évangile comme qualité de la parole elle-même qui s'adresse à chacun pour lui dire qu'il est possible d'exister autrement, si nous enlevons cela, cela signifie que toute action qui aurait pour volonté de faire rentrer les inchrétiens dans le christianisme, dans ce christianisme qui leur est devenu étranger, toutes ces actions deviennent non seulement improductives, mais elles deviennent encore vouées, ou elles sont en tout cas vouées à l'échec. Au contraire, il y a urgence d'employer l'énergie que nous avons et qui nous reste à montrer comment l'Évangile invite une manière d'exister autrement. Nous devons prendre conscience que le christianisme s'est installé dans une crise sans fin qui le condamne au pire des malheurs, à savoir qu'il est devenu non seulement insignifiant, mais inaudible. Le résultat, nous le voyons dans ce que sont devenues nos communautés. J'allais rajouter, qui ressemblent de plus en plus à des musées. C'est peut-être exagéré. Olivier Abel, le professeur de la faculté de théologie de Montpellier, fait très bien justement remarquer que notre société post-chrétienne est une société qui est littéralement vaccinée contre le christianisme. Notre société a développé, pour reprendre un terme d'actualité, tellement d'anticorps à ce que nous représentons qu'il est devenu totalement illusoire de vouloir la reconquérir en lui administrant une double dose de rechristianisation. Pour une personne, écrit-il, que l'on gagne par une campagne de communication évangélique, il y en a des dizaines qui s'éloignent pour très longtemps et nous continuons, sans rire, à parler d'évangélisation. Incontestablement, toute complaisance pour le passé est à bannir. Ce qui s'est passé dans un autre fois n'est plus. Toutes les certitudes qui s'incrustent dans le passé rendent ou contribuent à rendre la foi terrible. Dire et répéter « hier c'était bien ». Hier nous étions une multitude. Nos temples étaient pleins. Dire cela, c'est oublier à ce propos les mots mêmes de Jésus. Ils sont morts, ces gens dont vous parlez. Par contre, il nous revient désormais de faire entendre à neuf ce qui a tout rendu possible, à savoir l'Évangile, et l'Évangile seul. Mais tous, à l'exemple de la toute petite communauté de Thessalonique, nous sommes autorisés à inventer une parole qui assemble, une parole entendue en son temps, avec ce qu'elle fait entendre d'inouï, de merveilleux et d'extraordinaire, pour aujourd'hui et même pour les temps à venir. Autrement dit, pour entendre la parole, encore faut-il écouter le présent qui est le nôtre. Effectivement, l'Évangile est le témoignage d'une conviction à l'œuvre, là, ici, présentement, au moment où nous parlons, non plus hier, mais là, pour entendre et vérifier les mots de Paul aux Thessaloniciens. De fait, on raconte comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre des temps et de la colère à venir. Amen.